Courant d'air
au-delà des frontières.
L'émission qui vous fait voyager le mercredi à 17h30.
Bonjour à tous, bienvenue sur Courant d'air, l'émission qui vous fait voyager à travers le monde et aussi le temps. Nous vous proposons aujourd'hui un numéro très particulier qui se divise en deux parties, car j'ai rencontré Alexis et Moussa en pleine campagne dans un havre de paix où chacun est le bienvenu pour entretenir cet espace dédié à l'écologie et aux solutions alternatives. Et pourtant, c'est un sujet très sombre de notre histoire que nous abordons ici, notre toute dernière guerre qui n'a pas eu de nom pendant longtemps jusqu'à ce qu'on la nomme ainsi, la guerre d'Algérie. Moussa est d'origine algérienne, Alexis est français. Ils vont chacun nous partager leur part de cette histoire et nous allons aborder aussi plus en profondeur la culture algérienne avec Moussa. Donc tout d'abord Alexis, tu avais 22 ans quand tu as commencé la guerre d'Algérie.
Oui, j'avais effectivement 22 ans et j'étais dans l'obligation de faire ce service militaire. Et j'étais tout à fait conscient de la guerre d'Algérie, puisque j'avais eu plein d'échos par des copains, etc., de ce qui se passait là-bas. J'aurais pu être objecteur, c'est-à-dire refuser d'aller là-bas, mais en échange, j'aurais écopé de 2 ans de prison dans les prisons françaises, donc j'aurais pas affronté le danger en Algérie. Et j'ai choisi d'aller en Algérie parce que je pensais que les copains y allaient là-bas, et moi que j'avais pas à rester, même en prison, tranquille en France. J'espérais donc là, à ce moment-là, de pouvoir agir autant, à ma petite mesure, non pas pour contribuer à la guerre, mais plutôt essayer d'apaiser un peu les choses là-bas. Je suis arrivé donc en Algérie, j'ai été d'abord encaserné dans une compagnie de commandement. Là, au bout de 3-4 jours, j'ai eu déjà 7 personnes, 7 gars de 20 ans, qui étaient arrivés sur le même bateau que moi, qui ont été tués dans une embuscade. Ensuite, dans les semaines qui ont suivi, j'ai été témoin de torture. C'est moi qui gardais les prisonniers, donc j'ai vu les prisonniers revenir de la torture ensanglantés, tout le visage tuméfié, on leur avait cassé des dents, etc.
Quand on n'a pas les mêmes idées, on se lève les fils, c'est régulier. File-moi ta part, mon petit Youssef, sinon je te branche sur l'EDF. Les temps sont difficiles. Réponds, dis-moi, où est ton pote? Sinon tu vas être chatouillé, dis-moi. Réponds, lâche ta camelote. Quand on questionne, il n'y a qu'à causer. Les temps sont difficiles.
Donc j'ai pas pu supporter ça et aussitôt j'ai écrit à des journaux en France pour exprimer ce que je voyais. Ça a paru dans 2 journaux en France et ça s'est répercuté donc... Pour moi, en Algérie, puisque l'armée française, j'avais exactement tout ce qui s'écrivait dans la presse. Donc, j'avais à peine 2 mois que j'étais là-bas. Je suis passé devant un tribunal militaire. On m'a reproché d'avoir violé le secret militaire, que les tortures étaient un secret militaire. Et on m'a dit, nous sommes là que pour le maintien de la paix et non pas pour faire la guerre. Si nous avions été là pour faire la guerre, vous étiez passible de passer par les armes. Mais comme ce n'est pas le cas, nous vous envoyons dans l'endroit le plus dangereux du coin. Voilà. Alors ensuite, donc, je me suis retrouvé sur un piton, on appelait ça un piton, c'est-à-dire une colline dans la montagne de Loire-Senis. Nous étions 20 Français de métropole et une 40aine d'harkis. Les harkis étaient des personnes du pays qui étaient embauchées par l'armée française comme suppléants. La plupart étaient beaucoup plus âgés que nous. Ils avaient souvent jusqu'à 40-50 ans. Ils avaient été soldats pour défendre la France pendant la guerre de 39-45. Et oui, donc ils étaient restés fidèles à la France et ils s'étaient donc engagés dans l'armée française. C'était eux qui étaient toujours les premiers mis en danger. Ça s'est bien passé tout le temps que j'ai été sur le piton, parce que j'ai réussi à rassembler tout le monde. Et moi, je leur ai dit, moi, je n'ai pas envie de mourir ici, donc je tiens à sauver ma peau. Est-ce que vous avez envie, la même envie? Ils m'ont dit oui. Et donc, j'ai dit, pour ça, il faut essayer de faire la paix avant l'heure. Donc, d'éviter d'attaquer, d'éviter tout ce qui peut provoquer la violence. Donc on a convenu qu'on respectait ceux d'en face, d'une part. On a essayé d'améliorer nos rations alimentaires en achetant des poulets, des moutons, des choses comme ça. Et d'habitude, l'armée française les volait aux petits paysans du coin qui étaient extrêmement pauvres. Et nous, on avait décidé de leur acheter le prix que ça se vendait, quoi. Donc pour que ça soit juste. Et donc tout le temps qu'on a été là-bas, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de mort, alors que peu de temps avant que j'arrive, il y avait une dizaine de morts aussi.
Quel a été votre rapport avec les habitants? Comment ça s'est passé avec cette espèce d'entente cordiale?
Ça s'est bien passé. On avait sur le Piton même, il y avait un tout petit village de paysans algériens. Surtout, il y avait surtout des femmes et des enfants. Les maris, on ne sait pas où ils étaient. Il n'y en avait pas beaucoup. Peut-être qu'ils étaient de l'autre côté. Ça, c'est bien possible. Mais nous, on a toujours été corrects avec eux. En plus, on les soignait. C'est-à-dire que s'il y avait des enfants ou des adultes de malades, nous, on avait une trousse, une pharmacie, tout ça. Donc, on pouvait faire les premiers soins. Oui, un peu plus tard, quand je suis parti du Piton, j'ai été renvoyé dans une compagnie. Mais toujours quand même dans l'Oircenis. Dans les champs, je rencontrais des paysans. Et moi, j'allais naturellement vers eux, puisque moi, j'avais constaté dès en arrivant en Algérie que les petits paysans de là-bas ressemblaient beaucoup aux petits paysans de la Bretagne. Donc, je me sentais à l'aise avec eux. Et leurs conditions étaient assez proches, peut-être encore plus pauvres mais que ceux de Bretagne, mais c'était quand même assez proche de ce que j'avais vécu pendant mon enfance. Et donc, moi, ayant été ancien ouvrier agricole, je sympathisais naturellement avec eux. Je n'ai jamais eu de problème. Les enfants m'amenaient des oranges, voilà, quand je montais la garde. Même une fois, j'étais vraiment parti me promener dans la campagne, les mains dans les poches, et jamais d'arbre. Je ne me promenais jamais avec une arme tout seul. Et c'est la compagnie qui est revenue me chercher avec plusieurs Avtrak, c'était des espèces de petits blindés avec des mitrailleuses. Et on m'a engueulé, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, là, non seulement tu risques ta vie, mais tu nous exposes nous aussi parce qu'on est obligé de se déplacer pour venir te chercher. Oh, j'ai dit, moi je suis bien, là, je suis tranquille, j'ai discuté, j'ai peur de rien. Ça arrivait de temps en temps, des petites histoires comme ça.
Du coup, finalement, c'était les prémices que tu as amenées avec toi de la paix, de l'indépendance d'Algérie. Et justement, du coup, Moussa, tu as aussi vécu la guerre, mais enfant, en fait. Est-ce que tu peux nous parler des souvenirs marquants que tu as vécu à cette période?
Comme je suis né en 52, donc la guerre s'est déclarée 2 années après ma naissance. À 4 ans ou 5 ans, déjà, il y avait un événement marquant, c'était la destruction du village natal qui a été bombardé par l'armée française, bien sûr. Bombardement qui s'est effectué après un avertissement de 24 heures. Donc les gens n'avaient pas le temps de prendre ils avaient juste le temps de prendre le strict minimum avec eux. Et je me souvenais très bien aussi des avions qui passaient au-dessus du village. Mais je me souviens aussi du déplacement à Dodane, en famille, chez des gens qu'on connaissait à l'époque. Après ma rentrée à l'école, un peu tardivement bien sûr, parce que j'ai eu quand même 3 ans de retard pour aller à l'école, j'ai côtoyé aussi des militaires français parce que ma grand-mère, chez laquelle j'habitais, moi et mon grand frère, qui était âgé d'une année de plus que moi, ma grand-mère habitait presque en face d'une caserne. Donc j'ai eu l'occasion quand même de voir les militaires, de les côtoyer, et de temps en temps même de parler avec eux. Je me souviens aussi d'une petite anecdote vers la fin de la guerre. Lorsqu'on posait la question, on savait, on entendait des rumeurs que c'était l'armistice, que la guerre était pratiquement finie. Et puis nous, pour rigoler avec les militaires, on leur posait la question. Pourquoi vous allez vous en aller? Certains nous répondaient parce qu'ici c'est sale et puis on n'a rien à faire. Et puis nous, malins qu'on était, on leur disait boum, boum, boum. C'est parce que vous avez peur de vous arrêter tout enfant, bien sûr en molagant. Et puis les histoires aussi que les parents racontaient à l'époque, avec plein, justement, ils décrivaient les tortures, les morts des proches, etc. Voilà, c'est un peu tous ces événements qui ont marqué mon enfance.
Matin du 5 juillet 1962. Après 7 ans de guerre, enfin la paix. L'Algérie est indépendante.
À l'indépendance, comme j'avais uniquement 10 ans, il y avait des choses qui m'échappaient aussi. Au niveau du mot, déjà le mot indépendance, je n'arrivais pas à le saisir complètement. Qu'est-ce que c'était ? Et puis, effectivement, il y avait une grande allégresse à l'échelle nationale. Les gens étaient contents. Il n'y avait pas grand-chose, c'était quand même la misère. Les gens se débrouillaient comme ils pouvaient. Mais il y avait cette effervescence d'entraide quand même, qu'on sentait à l'époque, même enfant, qu'on sentait... les gens étaient animés par ça, quoi. On voyait les gens tout le temps sourire, même s'amuser avec rien. Le système socialiste, à l'époque, on voyait uniquement le bon côté, quoi. Lorsqu'on allait faire des reboisements, ou bien lorsqu'on allait en groupe... aider quelqu'un soit à faire son jardin ou à construire sa maison. Pour nous, c'était très important à l'époque. Sauf que, bien sûr, les côtés négatifs, on commençait à les comprendre qu'étant adulte. Donc, voilà. Mais l'enfance, malgré la misère qui régnait un peu, on était heureux, quoi. On allait quand même à l'école, l'instruction était gratuite. Il y avait beaucoup de soleil aussi en Algérie, donc on était heureux en tant qu'enfant, quoi.
J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays.
Qu'est-ce qui a fait que je suis venu en France, que j'ai quitté l'Algérie? C'est aussi toute une histoire qui a débuté, bien sûr, après l'indépendance, après l'école primaire, après le collège, tout ça. Comme j'avais fait mes études, toutes mes études, je les ai faites en Algérie, donc le primaire, le secondaire et le supérieur. Études que j'avais faites aussi en langue française. Pour moi, l'arabe était une langue secondaire à l'époque. Le berbère n'était pas enseigné en Algérie. Sauf que, en tant qu'étudiant, même à Polytechnique, je ne voyais pas les choses telles qu'elles s'est déroulées en Algérie. En tant qu'étudiant, on se consacrait à nos études et on voulait terminer les études pour aller dans la vie professionnelle et aider le pays à s'en sortir. Malheureusement, après les études, une fois dans la vie pratique, je découvre un autre côté sombre de l'Algérie. Mais un côté sombre, vraiment, le terme n'est pas assez puissant pour décrire ce qui se passait en Algérie au niveau politique, au niveau économique, au niveau historique aussi. Tout allait de travers. J'ai découvert pratiquement de tous les organismes étatiques. Même, je dirais, un sabotage économique. Tout ça, bien sûr, a ses origines 62. Parce qu'après l'indépendance, le FLN a éclaté, il y a eu des tueries, il y avait ce qu'on appelait la guerre des clans, qui allait le premier prendre le pouvoir, etc. Il y a tout ça qui a influé sur l'indépendance algérienne, ce qui a amené le pays à l'état où il était. Comme moi, en 80, j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire j'ai mis un pied dans la vie professionnelle. Et je découvre des choses que moi, je ne comprenais pas, quoi. Malheureusement, le pays a toujours fonctionné de cette façon. Je me souviens très bien d'une époque où, après mon service militaire, j'ai commencé à travailler dans un complexe électroménager. Et je me souviens très bien, lorsqu'on bousculait un peu les responsables pour qu'on puisse avancer, travailler, ben, il fut un temps où le FLN, qui était le parti au pouvoir, allait faire des dossiers à notre encontre pour nous classer comme perturbateurs. parce qu'on voulait que les choses bougent. Alors, bouge dans le sens, pas politique, mais dans le sens travail. On voulait innover, on voulait appliquer nos connaissances. Mais il y avait des freins partout, des freins partout.
Nous faisons à présent une pause musicale avec le titre « Awal en Lob » de la diva de la chanson kabyle, Nouara. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, vous êtes bien sur l'émission Courant d'air qui vous fait voyager. Vous venez d'entendre l'artiste Nouara, une chanteuse célèbre et d'origine kabyle. Et nous abordons à présent la culture berbère, avec Moussa.
Donc moi je suis originaire de la Grande Kabylie, comme il y a deux Kabylies, donc c'est des régions en Algérie. La Grande et la Petite Kabylie qui sont à peu près à 100 km au sud d'Alger. C'est une région montagneuse, puisque le deuxième point culminant d'Algérie, justement, je suis né presque à 2 km de la pointe, quoi. Mon village natal est juste au-dessous de la cime. Donc la Grande Kabylie est très montagneuse. Bon, bien sûr, c'est une région boisée aussi, il y a beaucoup de forêts. Les hivers sont rudes en Kabylie, même très rudes. Les étés sont vraiment chauds. Donc c'est un climat un peu du chaud et du froid. Voilà, et c'est une région aussi où il pleut beaucoup comparativement au reste de l'Algérie, avec beaucoup de neige en hiver. Et c'est une région aussi qui a une petite particularité par rapport au reste, ou bien à la majorité du reste de l'Algérie, c'est que c'est une région où le berbère est vraiment parlé à fond. D'où l'amalgame que font les étrangers, par exemple, en disant, en assimilant le berbère au Kabyle. Alors que le berbère, c'est l'ensemble du Maghreb, et le Kabyle, c'est l'habitant d'une région de l'Algérie. Donc le Kabyle, par déduction, c'est un berbère, il fait partie de l'ensemble des berbères. Sauf qu'en Kabylie, même s'il y a beaucoup de gens qui parlent arabe, c'est beaucoup plus de l'arabe littéraire, de l'arabe appris à l'école. Et le berbère est une langue vraiment maternelle dans la région. À l'époque, donc, moi, comme j'ai toujours vécu là-bas, donc je pratiquais en gros trois langues à la fois. Et des fois, je faisais un mélange des trois, le français, le berbère et l'arabe. Donc le berbère que j'ai appris au sein de la famille, et le français et l'arabe que j'ai appris à l'école. Alors il y a beaucoup de gens, par exemple, à Paris ou bien ici à La Guette, il y a beaucoup de gens qui me posent la question sur la différence qu'il y a entre le berbère et l'arabe. Alors j'ai toujours la réflexion instantanée de leur dire, l'arabe et le berbère, c'est comme si tu disais le chinois et le français. C'est des langues complètement différentes, complètement étrangères l'une à l'autre. Il y a aussi beaucoup de gens qui font aussi l'amalgame qui a été propagé par la politique ou la géopolitique, confondant le Maghreb avec les Arabes. Ça aussi, c'est une erreur historique, parce que le Maghreb, c'est des berbères. Moi, personnellement, je dirais beaucoup plus les arabophones, parce qu'ils n'ont rien à voir avec les Arabes, ces gens-là. C'est plus des berbères qui sont auto-arabisés. Alors au Maghreb, actuellement, effectivement, il y a plus de 70% qui parlent arabe, qui ont oublié le berbère. Donc ces 75%, comme de génération en génération, on leur a inculqué une fausse histoire en leur disant que vous êtes des Arabes, vous êtes des Arabes. Donc actuellement, si on leur pose la question, vous êtes quoi? Ils répondent, nous sommes Arabes. Ça aussi, c'est une déformation historique, parce que ce n'est que des berbères arabophones, en fin de compte. Ils n'ont pas eu la chance de conserver la langue berbère, ou bien la chance, ou je ne sais pas, plutôt, ils ont vécu dans des régions où l'arabe était vraiment implanté, où leurs grands-parents parlaient arabe, et ben, voilà. Par la force des choses, ils se prennent pour des Arabes. Et je n'exclus pas aussi le fait que les vrais Arabes existent au Maghreb, hein, parce qu'effectivement, avec l'avènement de l'islam vers le 6e siècle, il y a eu quand même des Arabes qui sont arrivés au Maghreb pour l'islamiser. Notamment en Algérie, il y a une région qu'on appelle El Oued, qui est vraiment une région typiquement habitée par deux vrais Arabes, c'est-à-dire des gens venus de l'Orient vers le 6e siècle. Par exemple, une phrase qui va faire peur aux enfants qui font des bêtises, quand on était petit, c'est Ouradiasi Fisakitch, ça veut dire il y a l'hyène qui va arriver te bouffer. Si tu continues à faire des bêtises. Il y a aussi quelque chose aussi de particulier qui a aussi un lien avec la guerre d'Algérie. Vers 58-59, je crois, l'armée française avait incorporé des légionnaires sénégalais. Donc des mercenaires sénégalais, des Noirs, qui sont arrivés dans toute l'Algérie et notamment en Kabylie. Et comme les gens de la montagne, comme la Kabylie par exemple, c'était la première fois qu'ils voyaient des Noirs. Ils étaient étonnés d'où viennent ces gens-là, des gens noirs, très costauds, musclés, et qui ont fait des ravages pendant la guerre d'Algérie, parce que c'était des mercenaires. Donc au niveau torture, au niveau tuerie, c'était un carnage. Et nos parents, justement, pour nous faire peur quand on faisait des bêtises, ils nous disaient « Atsusmanakewa, c'est Sénégalais. Tu vas te taire ou je t'emmène chez les Sénégalais.
C'est la fin de la première partie de ce numéro consacré à la guerre d'Algérie. Dans la suite, au prochain numéro, nous aborderons le sujet des harkis et nous ferons un parallèle entre cette part de notre histoire et aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook et à écouter les podcasts de nos précédentes émissions sur la page Courant d'air du site de Radio Campus Rennes. Et merci à Dil Jibril pour le générique de l'émission. Merci à l'équipe de Radio Campus Rennes. On se retrouve mercredi prochain à 17h30 pour la suite du numéro. On se quitte à présent avec l'artiste Idir et son célèbre titre qu'il a fait connaître et dont le but était de faire émerger et connaître la culture kabyle et berbère. Avava Inouva.
غريبة